On va tourner ce matin dans le livre de Ruth. Donc, c'est l'histoire d'une femme, mais qui a rencontré un homme, un vrai. Donc, elle s'en attendait pas, mais elle a rencontré un homme. Puis, c'est dans le temps, mais les modèles, là, sont en dehors du temps, sont constants. C'est des modèles qui imitent Dieu ou ce que Dieu veut. Donc, ça, je peux vous le dire tout de suite. On va voir que Boaz, c'est un homme qui était beau socialement. On va voir que c'était un homme qui était beau personnellement. Puis on va voir que c'était aussi un homme qui était beau spirituellement. Bon, on a pris trois facettes de sa vie. Donc, Boaz. Puis, on va aller dans le livre de Ruth, chapitre 1. Le chapitre 1, c'est comme un portrait du temps avec un portrait de la situation. On va se transporter dans ce temps-là, au-dessus de 1000 ans avant Jésus-Christ. On va se transporter dans ce temps-là, dans le contexte, puis on va voir que c'est un homme. Mais avant, on va demander au Seigneur de nous guider, de nous bénir, puis de nous enrichir surtout. Prions. Bien, merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui est là pour nous. Seigneur, quand on s'est regardé dans ta parole, on voit, Seigneur, ce qu'on a besoin de voir. Eh bien, je te prie de nous purifier ce matin nos cœurs de ce qui ne t'appartient pas, de nos idées. Fais qu'on soit entier, Seigneur, dans ta parole, devant toi, pour qu'on puisse, Seigneur, savoir, puis commencer, Seigneur, après la rencontre, à devenir les meilleurs hommes. Seigneur, merci aussi parce que tu vas nous montrer que, à notre insu, Seigneur, tu es en train de nous former. Seigneur, bénis cet enseignement, Seigneur, que ta grâce soit avec nous. Amen. Donc, dans Ruth, chapitre 1, je vais vous le lire. C'est le côté le plus long. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Ouais. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent et lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai « j'ai de l'espérance », quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et maintenant, l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Eh bien, on voit l'histoire, on voit la situation. Puis, on voit qu'il était beau socialement, Boaz. L'arrière-plan, bien né à Bethléem. Du temps des juges. Savez-vous quelle sorte de temps c'était, les juges? C'était comme aujourd'hui, à peu près. Si on va dans le chapitre avant, Ruth, chapitre 1, puis on tourne dans le livre des juges, le dernier verset, c'est écrit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Donc, c'était un temps où les gens ne marchaient pas nécessairement avec Dieu. Puis, vous avez entendu l'expression, on peut être sincèrement dans l'erreur. Bien, beaucoup de personnes, quand on lit le livre des juges, qu'ils étaient sincèrement dans l'erreur. Donc, on peut être sincèrement dans l'erreur. C'était un temps comme celui-là. Donc, ensuite, bien, c'était 100 ans environ avant David. On peut le lire dans le livre de Ruth, c'est à peu près dans ce temps-là. Bon, comme j'ai dit tantôt, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Puis, bien, ça, on va y revenir tantôt. Je vous ai lu le chapitre 1 parce qu'il y a des noms qui sont écrits dans le chapitre 1. Puis les noms en Israël sont significatifs. Vous savez, elle a dit à la fin, change, appelez-moi pas Naomi, appelez-moi Mara. Donc, les noms avaient une grande signification, en tout cas. Puis quelques noms, ça va nous aider encore à mieux comprendre. Quelques noms qui sont dans le texte. Bethléem, c'est la maison du pain. Élimélec, Dieu est mon roi. Naomi, ça veut dire ma gracieuse. Appelez-moi plus gracieuse. Machlon, langueur, maladif. Puis Kiljon, consomption, destruction. On comprend pourquoi ils n'ont pas toffé longtemps dans le pays de Moab. Hein? Il y avait déjà des tendances, on peut dire. Puis quand on voyait les enfants qui venaient au monde, on leur donnait les noms qui fitaient avec un peu ce qu'ils étaient. Hein? Ensuite, bien, il y a Mara, amertume, on l'a vu tantôt. Après ça, bien, Orpa, celle qui tourne le dos. Elle a bien fait ça. Après ça, Ruth, l'amie qui s'y attache à elle. Les noms sont vraiment intéressants, hein? Donc, ils parlent, les noms. Donc, Boaz, ça veut dire « en lui et la force ». Imaginez-vous, hein, dans le pays du pain, pas de pain. Ça va mal. Hein? La tendance, quand ça va mal, c'est « ben, plus de pain dans le pays du pain ou dans la ville du pain, ben, je vais aller ailleurs chercher du pain ». C'est ça. Hein? On peut comprendre mieux, là. Bon, on va voir sa position sociale. Juste chapitre 2, les quatre premiers versets. Là, on voit Boaz, là. Je vais vous le lire, tiens. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et elle se trouva par bonheur, il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur âgé et ainsi de suite, on arrête là. Donc, à Bethléem, en Israël, l'époque du temps des juges, bien, il y avait des gens comme, il y avait un homme comme Boaz. Hein? Lui, Boaz, bien, de la famille d'Élimélec, c'est un homme qui était puissant, c'était un homme qui était riche, c'était un homme qui craignait Dieu. Hein? Regardez-le saluer ces gens. Hein? Quand il arrive, si les patrons agissaient comme ça aujourd'hui, ça serait un peu différent. Là. Donc, puis sa salutation, bien, Dieu, le nom de Dieu, le nom de l'Éternel était dans sa bouche. Puis, ses serviteurs répondaient en conséquence. Donc, les hommes qui craignent Dieu ont tendance à s'entourer de d'autres hommes qui craignent Dieu. Donc, il y a ça. Ensuite, eh bien, aussi, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, comme j'ai dit tantôt. Les noms qui figurent, je vous les ai mentionnés, puis, bien, il y avait deux types d'hommes. Okay. Il y avait des gars comme Élimélec. Quelle sorte d'homme que c'était, Élimélec? C'est un homme que son nom veut dire, ben, Dieu est mon roi. C'est un homme qui est incrédule. C'est un homme qui a fui quand ça allait mal. C'est la tendance des hommes, de certains hommes, de suivre, de s'en aller. Puis, il a essayé de répondre à ses besoins, mais à sa manière. Ensuite, bien, il a fait subir ses décisions à sa famille. L'autre type d'homme, c'est Boaz. Son nom veut dire « en lui est la force, en Dieu ». C'est un homme de foi. C'est un homme qui a demeuré dans le pays, même quand ça allait mal, puis a prospéré. Un homme qui s'attend à Dieu. Ses décisions apportaient la bénédiction. Je reviens un peu. C'est un homme qui craignait Dieu. Mais on va se poser quelques... On va réfléchir rien qu'un peu. C'est un peu comme une introduction. Bien, quelques leçons de ce déjà début de passage-là, c'est qu'il y a deux types de personnes. En tout cas, on les voit là. Hein? Il y a des hommes comme Élimélec, des hommes comme Boaz. Ceux qui sont à côté de la voie de Dieu, pourtant qui font partie du peuple de Dieu, puis ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Ça, c'est les deux types d'hommes qu'il y a. Hein? Celui qui marche dans les voies de Dieu. Puis, c'est remarquable dans le texte là que la ligne entre l'épreuve et la bénédiction est proche. Savez-vous qu'une décision peut faire une différence dans une vie familiale, dans une vie sociale? Une décision. La famille de Naomi est allée à Moab. Mais Dieu leur avait demandé de demeurer dans le pays, dans leur pays. La situation les pressait de partir. Même, ils auraient pu rester là, puis ils auraient pu penser à comment ça se fait qu'ils étaient rendus là, puis pas s'en aller. Parce que Dieu avait dit que, dans Lévitique, que si vous marchez pas dans mes voies, bien, je vais pas vous bénir, vos champs, ça allait pas produire, le soleil allait pas, ça n'allait pas pousser, la pluie n'allait pas venir. Il aurait dû réaliser. C'est peut-être parce qu'on ne marche pas avec Dieu que ça va mal. C'est pas le temps de s'en aller. C'est peut-être le temps de rester puis de prier. Ou de continuer. Ou de persévérer. Se repentir puis persévérer. Hein? Donc, la situation, les pressait de partir. Mais souvent, il y a des situations dans nos vies qui semblent nous pousser à prendre des décisions rapides pour en finir. On n'attend pas que Dieu intervienne. On veut tout de suite que Dieu réponde à nos besoins, puis surtout dans notre génération à nous aujourd'hui au Québec. Les choses, on les veut le plus vite possible. Les solutions, on les voudrait les plus vite possible. C'est une pression qui est sur nous. Mais en tant qu'homme, en tant que vrai homme, on ne devrait pas se laisser impressionner par ce qui est autour de nous autres. On devrait revenir un petit peu comme à l'ancienne. Mais même à l'ancienne, il y avait des gens qui se laissaient influencer par ce qui était autour d'eux autres. Boaz ne l'avait pas fait. Combien de familles font naufrage quant à la foi parce qu'elles ont pris des décisions hâtives pour répondre à leurs besoins personnels, mais sans consulter Dieu? J'ai connu l'Évangile en 1978. Ça n'a pas été trop long. Les premières années de ma vie chrétienne, je me suis aperçu qu'il y a des hommes qui ont pris des mauvaises décisions et qui ont fait subir des conséquences à leur famille. On était à cette île. Puis il y a des gens il y avait eu des problèmes, ça n'allait pas bien dans la ville, compagnie fermée, qui avaient déménagé sur la rive sud. Ils auraient pu rester. La ville a recontinué. Ils sont partis. Puis, j'ai vu, après les années, les conséquences qu'ils avaient fait subir à leur famille. C'était vraiment misérable. Quand j'ai vu ces choses-là, je me suis dit, « Seigneur, j'ai rien qu'une vie à vivre, j'ai rien qu'une vie chrétienne à vivre. » Je me suis aperçu que des chrétiens pouvaient prendre des mauvaises décisions. J'ai dit, « Seigneur, mais moi, j'aimerais pas manquer ma vie. J'aimerais pas faire subir des situations à ma famille que j'allais regretter. Je voulais réussir même avec ma famille. » Je me suis dit, si je ne réussis pas avec ma famille, ma vie ne sera pas une réussite. Il faut au moins réussir chez vous. Puis je travaillais sur la ligne de chemin de fer dans le Nord. Je faisais de la grosse argent, je faisais de l'overtime. Mais quand j'arrivais à les fins de semaine, eh bien, ma fille, ma plus vieille de mes filles, ça me prenait, j'étais là 2 jours à la maison, même pas. Ça y prenait une journée avant qu'elle commence à m'accepter. J'ai dit, moi, je ne vivrai pas ça longtemps. Je vais arrêter de faire de l'argent, puis je vais avoir moins d'argent, je vais descendre en ville. J'ai resté pour la compagnie, mais j'ai quitté l'overtime et la grosse argent pour rester plus avec ma famille, avec moins d'argent. Savez-vous quoi? Je ne le regretterai jamais. Ma fille aime le Seigneur. Mes enfants aiment le Seigneur. Puis, quand ça arrivait le temps où est-ce que j'avais des déménagements ou à faire, je priais toujours le Seigneur. Je regardais toujours ce que c'est que ça pouvait donner comme conséquence. Pas rien qu'à moi, mais à ma famille, si j'agissais de telle ou telle façon. J'ai rendu grâce à Dieu parce que souvent, ça m'aidait dans mes directions. Je cherchais la volonté de Dieu. Je lisais les proverbes chaque jour. Je les lis toujours, d'ailleurs, chaque jour. Ça fait 35 ans au-dessus qu'on lit les proverbes chaque... J'ai fait un calcul rapide, là. Ça fait au-dessus de 425-450 fois dans notre vie qu'on lit tous les proverbes au complet. Tu viens que tu lis un verset, puis l'autre verset dans ta tête, tu pourras le réciter par cœur quasiment. Tu sais, ça vient que ça fait partie de ton cerveau. Mais c'est pas rien que pour ça que je le lisais. C'est parce que les principes qui étaient là... me rendait vigilant pour les décisions que j'avais à prendre. Puis, il y a un verset qui dit dans les Proverbes, « Reconnais-le dans toutes tes voies. » Toutes. Tu sais, on ne tente jamais trop Dieu. Est-ce que j'y demande pour, est-ce que je m'achète un Ford, un Dodge? Oui, mais tu ne le dis pas à tout le monde que tu le fais, mais tu peux le faire. Est-ce que Dieu est mal pris avec les prières qu'il entend? Il en entend tellement en même temps, il est capable. Il n'y a pas une de nos prières qui va tomber à terre. Je cherchais à reconnaître le Seigneur dans toutes mes voies pour réussir. Je peux dire que je ne suis pas au ciel encore, mais je rends grâce à Dieu pour la vie qu'on a vécue parce qu'on a réussi. Puis je vais vous dire en passant, on n'avait rien pour réussir. T'es mal parti pour réussir. Mais avec la grâce de Dieu, puis l'obéissance à sa parole, rechercher sa volonté, bien, je rends grâce à Dieu pour aujourd'hui. Plusieurs chrétiens ont changé d'église, croyant trouver mieux. Mais la vie en abondance, bien, ne dépend pas de l'endroit où nous sommes, mais d'une attitude de cœur. C'est ça la vie en abondance. C'est dans le cœur que ça se passe. C'est là qu'on est en paix. Dieu peut nous bénir même dans des temps de famine. Il a béni des temps comme Élie, dans des temps de famine, c'était les corbeaux qui le nourrissaient. Dieu a des façons uniques, magnifiques, puis nouvelles encore. On ne vivra jamais assez longtemps pour savoir des nouveautés de la part de Dieu, comment il va prendre soin de nous dans telle ou telle décision ou telle situation. Il n'est jamais mal pris. Puis c'est surtout quand on est mal pris, qu'il n'y a plus de solution, c'est surtout là qu'on voit que le Seigneur nous aide. Parce que là, il nous dit, « Bon, tu as tout pensé, là, ben regarde, je vais agir, puis je vais te délivrer, puis tu vas me glorifier. » On va le saluer, on va le glorifier. C'est comme ça. Prenons attention de nous laisser pousser par les événements. Hein? On doit être capable de vivre la disette avec reconnaissance envers Dieu parce qu'il va toujours prendre soin de nous. On devrait vivre ses promesses à notre égard et non chercher à solutionner les choses nous-mêmes, sans lui. Il y a des solutions humaines que tout le monde va dire, tu devrais faire ça, ça ne veut pas dire que tu devrais le faire. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu regardes dans la parole de Dieu. Boaz a attendu et la pluie est revenue. Notre tendance, lorsque ça va mal, c'est de s'en aller, fuir, je m'en vais. Ça, c'est une tendance d'un enfant. Bon, ben, je m'en vais. Tu sais. Restons pas là. Mûrissons, vieillissons hein, avec l'aide du Seigneur. Donc, Boaz, comme j'ai dit tantôt, sois certain d'être approuvé par Dieu dans toutes les décisions qui nécessitent un changement qui peut même affecter ta famille, l'endroit. La persévérance, c'est une qualité que Dieu honore. Une petite dernière application, une autre réflexion. Okay? Élimélec, ça veut dire « mon Dieu est roi ». Est-ce que ça paraissait dans sa vie? Non. Il vivait à Bethléem, la maison du pain, dans le territoire de Juda, qui signifie « Dieu soit loué », et dans le pays de Canaan, qui est la place de Dieu où le peuple de Dieu vivait, où l'héritage promis était. Est-ce que Élimélec a agi selon le beau nom qu'il portait? Non. C'était rien qu'une profession. Mais ce n'était pas une réalité dans son cœur. Élimélec, il n'a pas cherché la volonté de l'Éternel. Il a quitté la maison du pain, le lieu de l'adoration, Canaan, pour aller à Moab, qui veut dire issu d'un père. On pourrait dire ou issu d'une relation illicite. On sait que les Moabites, eh bien, ça venait de là. Donc, c'était apparemment, comme j'ai dit, toi puis moi, ce matin, on porte le beau nom de chrétien qui veut dire « comme Christ ». La Bible, dans 2 Timothée, nous dit que c'est un beau nom qu'on porte. Puis la Bible nous dit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le mot prononce, là, ça veut dire quiconque qui porte dont le nom, qui tire son nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. On a un témoignage à donner autour de nous. On n'est pas obligé d'être nombreux, mais on peut avoir une grande influence si on marche en chrétien, comme la parole de Dieu nous demande de marcher. Où est-ce que notre cœur est? Où est-ce que ton cœur est ce matin? Est-ce que ton cœur s'est éloigné du Seigneur? Ou est-ce que ça te tente de lâcher ou de t'éloigner? Ça se peut. Où est-ce que tu en es? C'est dans ce temps-là qu'il faut continuer à persévérer. Pas changer sur un coup de tête, pas bouger sur un coup de tête. Il y a un verset que j'ai adopté dans toute ma vie, c'est Josué, chapitre 1, verset 8. C'est « Que ce livre de la loi, je pense qu'il est ici, je ne l'ai pas là, mais je vais vous lire tantôt celui-là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Puis, je l'ai adopté. Puis moi, je me disais, bien, la plus grande entreprise qu'un homme ne peut pas avoir, c'est une entreprise familiale, c'est sa femme, ses enfants. Puis avec la grâce de Dieu, on devrait tenter de réussir là, dans ce domaine-là. Puis quand on réussit là, je peux vous dire une chose, la vie est meilleure, il n'y a pas de dépression. Tu as réussi, ça a beau brasser partout autour, ça a beau mal aller partout autour. J'ai toujours cru que dans mon nid, ça devait être en paix, même si ça brasse partout. J'ai fait en sorte que dans mon nid, ça soit la paix, puis que je me suis aperçu que le semeur de paix dans mon nid, dans mon foyer, c'était moi. Quand je ne me mettais pas en colère, quand je ne me fâchais pas, quand je donnais un exemple à mes enfants, envers ma femme, avec ma femme. J'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais, moi, quand je vais être plus vieux, qu'au lieu de devenir plus malcommode, à carrière, que je devienne de mieux en mieux, qu'à mesure que mes croûtes humaines vont tomber, que ce soit de la belle peau spirituelle ou divine qui sorte. Donc, c'est une prière que vous pouvez faire aussi. On va voir maintenant, ensuite, que qui était beau aussi personnellement. Ouais, on n'a rien que vu un début. Sa douceur, sa bonté, hein? Le caractère de Boaz. On va regarder ça un peu. Il aurait pu dire, quand Ruth est allée dans son champ pour... On avait vu le portrait vite tantôt. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de bien-être social. Si tu étais veuve, puis si tu voulais survivre, il fallait que tu ailles glaner dans les champs. Ça veut dire glaner, ça veut dire ramasser ce que les moissonneurs avaient laissé tomber ou oublié. Puis il fallait que tu ramasses ça, puis que tu réussisses à survivre avec ce blé-là ou ce grain-là que tu pouvais récolter. Puis quand il l'a vu dans le champ, il aurait pu dire, « C'est que ça fait là une Moabite dans mon champ dehors. » Puis il y aurait eu peut-être une certaine... certaines raisons de faire ça. Hein? Il y avait le choix. Comme j'ai dit tantôt, la scène au chapitre 2 est empreinte de cette douceur. La bonté du maître a déteint sur ses serviteurs. On l'a entendu tantôt. Animés du même esprit que Boaz, les moissonneurs, en effet, ne regardent pas Ruth avec des yeux juifs. Sinon, ils lui diraient, comme les disciples, comme à la femme cananéenne, là, hein, renvoie-la, elle nous importune. Non. Boaz avait le choix d'exercer Deutéronome 23, 3 et 4, qui dit « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'Assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. » Donc, il y avait eu une malédiction là, sur elle. Puis c'était une Moabite. Il aurait pu dire « Pas de Moabite dans mon champ, qu'à va cueillir ailleurs. » Tu sais, il aurait pu faire ça. Non. Et là, ça fait... Il y a plutôt... décidé de suivre un autre passage qui est dans Lévitique 19-10 qui dit « Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel. » Donc, il a plutôt employé ce verset-là. Proverbe 19-22, hein, c'est écrit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Hein? Donc, je l'avais lu, mais en tout cas, excusez, je ne me rappelais plus que je l'avais là. Proverbe 22, okay. « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Donc, le reste, mais ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. T'es-tu charmant? Quand j'ai lu les proverbes la première fois, je me suis dit, est-ce que moi... je vais gagner ma femme. Puis ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Il faut y penser. Je vais vous en dire un peu plus tantôt là-dessus. Hein? Donc, je te pose une petite question. On est en public, on se parle, on parle du meilleur de nous autres mêmes. Là. Mais ce qu'on est vraiment, c'est chez nous qu'on le voit. Nos enfants le voient. Notre femme le voit. Comment tu réagis quand tu as une contradiction, quand ça ne fait pas ton affaire? Est-ce que mon rêve, c'était que mes enfants, ils ne sortent pas de la maison tant que moi, je ne serai pas correct, je ne peux pas partir avec un témoignage correct d'un père qui a changé tranquillement, mais qui avançait tout le temps, mais que quand ils vont partir de la maison... Puis la plus grosse misère, c'était avec mon fils. Lui, il venait me chercher. Je n'avais qu'un, mais on dirait que tout était dedans, là. Il y avait plein le contraire de moi-même. Puis j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas qu'il parte de chez nous avant que j'aie passé au travers de mon fils. Il est parti à l'âge de 28 ans. Donc, ça a pris du temps. Mais après ça, puis là, j'entends dire des nouvelles comme de quoi qu'il va aller dans le ministère. Ah, après longtemps, mais il fallait qu'il passe par tout ça avant. Mais ça n'a pas été négatif. Je ne peux pas dire que c'est fini le travail, là, mais c'est pas. Donc, c'était. On voit son caractère un peu plus. Son désintéressement. Hein? Il ne s'est pas préoccupé de lui-même. Il n'a pas revendiqué son droit de patron dans le livre. Dans le livre de Ruth, personne non plus réclame son dû. Chacun semble apprécier le sacrifice de l'autre, mettant en pratique la parole de Romains 14, 7, qui dit « Nul de nous ne vit pour lui-même. » Hein? Ça, c'est l'huile qui devrait empêcher la machine sociale de grincher. Hein? Si tout le monde faisait ça aujourd'hui, ça serait différent. Hein? Mais lui, il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. Donc, on sait bien qu'on ne peut pas demander ça à des non-chrétiens, mais en tout cas, nous, on peut le faire. Hmm? Ensuite, son caractère encore. Hein? Donc, sa générosité. Il veut pas seulement que Ruth mange, mais qu'elle se rassasie dans le... Même tout au long du passage, hein? Pour elle, il fait détacher des épis des gerbes pour qu'il en reste comme à la traîne, pour que Ruth en ait davantage. Une Moabite. Ensuite, eh bien, on peut dire, jamais il ne la laisse s'en retourner à vide. Même après la récolte, encore là, il aurait pu l'envoyer. Il avait déjà commencé à faire des choses pour elle. Puis après ça, non, il a dit. Puis là, il a donné tout. Il en a eu plus que jamais. Donc, c'est quelqu'un qui était généreux. Généreux. Pas rien que de l'argent, là. Généreux. Généreux de son temps. Il n'y a rien qu'un principe que j'ai pris puis que je vais vous le donner en ce qui concerne d'être généreux de son temps. J'ai réalisé à un moment donné que les personnes étaient plus importantes que les choses, les travaux, les devoirs, les obligations, les personnes en premier. Quand une personne est devant moi puis qu'elle me pose une question, ça ne me dérange jamais. J'ai accepté de ne pas être dérangé par les gens, d'être généreux. Je suis là. Même que les gens, ma prière, je dis, Seigneur, il faut qu'ils ressentent que quand que je ne suis pas là, que je suis là et que je te dise, que je dise aux gens, tu peux parler, je suis là pour t'écouter. Puis, je le savais que si j'avais hâte qu'elle s'en aille, la personne le sentait. Ou si c'était un type de personne qui me dérangeait, j'avais hâte qu'il en finisse. Mais j'ai dit, Seigneur, non. Peut-être que la personne, elle va me sonder, elle va me tester, puis qu'elle veut quelque chose, elle veut me dire de quoi, mais si elle avoue que je n'ai pas le temps, elle ne me le dira pas. J'ai commencé à adopter. Ça n'a pas été facile, parce que mon naturel, c'était les choses. J'étais un homme d'action à faire des choses avec mes mains. J'étais un manuel avant. Mais j'ai appris que les personnes étaient plus importantes que les choses. Premièrement, mais les personnes qui étaient autour de moi, ma femme, la plus importante de toutes, puis mes enfants, puis les gens dans l'église, puis après ça, bien tout autour de moi. Parce que quand un comportement fait partie de ta vie, ben ça affecte toute ta vie. C'est ce que j'ai réalisé à un moment donné. Donc, c'est un homme qui était généreux. Sa fidélité, hein? Sur qui on pouvait compter. C'est ça, hein? Donc, c'est Naomi qui a dit ça. Tu peux compter sur lui. C'est ça qu'elle a dit, hein? Proverbe 26. Beaucoup, je vous le dis, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est rare. Aujourd'hui, je le sais encore davantage. Beaucoup de gens avec qui je fais affaire se désistent quand ils voient que l'effort va venir. Moi, j'ai remarqué ça, là. Beaucoup, beaucoup. Savez-vous ce que je fais quand quelqu'un veut se décider, quand l'effort arrive, puis qu'il voit que ça demande, puis qu'il y avait d'autres choses à faire? C'est ce que je fais, je fais. Je le laisse aller. Dans le temps-là, quand les gens avaient peur, dans l'ancien temps, quand les gens avaient peur d'aller à la guerre, même le chef d'armée disait, ben, allez-vous-en chez vous, parce que tu peux affecter les autres. Ça fait que moi, je me suis dit non. Je les laisse aller. Mais les gens qui sont fidèles, puis qui le font, puis je regarde ça au début de leur vie chrétienne, les hommes qui s'engagent puis qui le font, oh boy, là, je me dis, il y a de quoi là en arrière de ça. Ça va-tu durer? Puis quand je vois que ça dure, je me dis, ben mon ami, une perle rare, ça, une perle rare. Un homme, ça c'est un homme. Puis, je vois la grâce de Dieu dans cet homme-là. Je m'attends de voir la grâce de Dieu dans cet homme-là, puis je la vois. Donc, un homme fidèle. Lui, c'en était un. Je l'ai appelé Boaz, là, juste avant respectueux. Oui, on peut le continuer. Un homme qui respecte est respecté. C'est une Moabite, c'est une femme. Quand on lit le livre de Ruth, il a dit à Ruth, il a dit, reste dans le champ, qu'on ne te voit pas aller ailleurs, dans d'autres champs, reste dans mon champ. Puis il dit, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Pourquoi qu'il a fait ça? Hein? Ça se peut-tu, 1000 ans avant Jésus-Christ, puis les gars couraient encore après les femmes? Ou il essayait de profiter d'une pauvre veuve qui n'était encore pas trop vieille, puis qui travaillait dans le champ? Des abus, il y en avait autant qu'aujourd'hui. C'était un homme qui respectait, mais qui protégeait les femmes. C'est un homme respectueux, ça. Qui respecte les personnes autour. Si tu respectes les femmes, les faibles, tu vas être respecté. On dirait que, moi j'ai remarqué ça là, quand tu ne fais pas vraiment quelque chose avec ton cœur, que ça ne marche pas. Mais quand tu le fais avec ton cœur, Dieu t'honore, puis il te rend la monnaie de ta pièce, puis la monnaie des fois bien plus que ce que tu avais donné avec Dieu. J'ai remarqué ça, moi, dans tout ce que Dieu nous demande, quand on le fait, il est généreux. Au bout. Donc, le rêve, je l'ai appelé, moi, Boaz, le rêve des femmes. Hein, le rêve des femmes. C'est un homme respecté par ses travailleurs, par les citoyens, les anciens. Quand on lit le livre de Ruth, on le voit facilement. C'est écrit. C'est un homme écouté qui demande et qu'on écoute quand il demande de quoi. Donc, tu sais, je voulais venir quelqu'un, moi, de respecter. Non, on veut tous les hommes être respectés, que les gens, quand on parle, aimez-vous ça quand vous parlez, puis que les gens, ils parlent d'autres choses, puis ils vous coupent, puis qu'un autre qui... Comment ça se fait, ça? Je me suis posé ces questions-là. Comment ça se fait? Puis, j'ai compris, ben, que je ne pouvais pas l'exiger ou me fâcher à cause de ça. Je pouvais que faire ce qu'il faut pour me repratiquer pour la prochaine fois, ou être, ou devenir. Mais j'ai remarqué que faut que tu sois pour que ça marche avec le Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai dit, OK, j'ai compris. J'ai compris. Une chose qui me dérangeait aussi, c'est quand ma femme demandait des conseils à quelqu'un d'autre, comme au pasteur. C'est pour ça que je suis venu pasteur, peut-être, là, je ne sais pas. Mais j'ai dit, la confiance de ma femme, c'est moi qu'il faut qu'il la gagne. Il faut que je sois un homme digne de confiance. Puis j'ai travaillé pour ça, connaître la parole de Dieu pour être capable de répondre à ses questions. Puis je n'ai jamais fini de répondre à ses questions encore, là. Mais quand même, je bénis Dieu. J'avais bien compris. C'est un homme aussi qu'on peut dire estimé, qu'on peut voir hein, à travers de ses paroles. Hein. Quand il est allé aux portes de la ville, tout le monde, il donnait des directions. Si vous lisez dans chapitre 4, versets 9 à 12, puis il a fait des affaires avec la personne qui avait un droit de rachat qui était en avant de lui, puis il a négocié devant lui, puis tout le monde l'écoutait, il a été choisir des gens, les gens sont venus... Il avait une influence, cet homme-là. C'est un homme recherché. Bien, pour ce qui est de ce type, de son caractère, je peux te dire, mon frère, que si tu honores les femmes vont t'honorer. Si tu le fais, là, ils vont le faire. Puis, excusez, je vais le mettre là. Donc, dans le proverbe 31-23, ça s'adresse à la femme vertueuse, puis ça dit dans ce proverbe-là que le mari, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, la femme c'est une femme qui est vertueuse, comme par conséquence, bien son mari est respecté. C'est fort, hein? Respecte ta femme, la société va te respecter ou les gens autour de toi vont te respecter. C'est fort. Mais c'est là. Puis, j'ai réalisé que, ben, Ruth, Naomi, là, c'est elle qui a dit à Ruth, elle a dit, « Fais-toi-en pas, ma fille. Cet homme-là va régler la situation aujourd'hui, il te l'a dit. Elle savait que c'était un homme, un vrai, Naomi. Tu vas être un vrai homme quand les femmes vont dire de toi que tu es un vrai homme. Ça vient pas de toi. Quand les femmes disent du bien de toi et qu'ils disent « ça, c'est un homme », ben là, tu n'auras pas passé le test puis tu n'auras pas passé le test avant ça. C'est ça le test. Puis, là, puis quand tu n'es pas loin puis que tu es dans une rencontre, tu entends des femmes parler puis tu n'es pas supposé l'entendre parce qu'ils pensent que tu es trop loin puis que la femme elle parle de toi et dit des bonnes choses de toi, c'est le fun. Ben, on devrait tous courir après ça parce que c'est tout possible pour tout le monde. Tous les hommes qui ont essayé, c'est tout possible. Ça demande une constance, puis ça n'ira pas d'un coup sec, mais ça va arriver si tu persévères. À mesure que tu vas vieillir, ça va être comme ça. Comme j'ai dit tantôt, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, à mesure que mes croûtes terrestres vont tomber, il faut que ça soit le beau qui sorte. Je vais dans un foyer de personnes âgées, d'aider. J'ai vu un chrétien là. Je vois un chrétien qui était là, puis qui a marché, qui était longtemps dans mon assemblée, puis là, il veut plus tellement me boire. Il a délaissé. À partir du moment que sa femme est morte, il l'a comme pas pris, puis il a reculé. Puis je suis dans ce même foyer-là. Une femme qui, elle, ben, n'est pas là depuis longtemps, mais elle dit, « Je m'en vais là, dans ce foyer-là, avec un tel monsieur. » Elle dit, « Ça va être le fun. » Puis elle s'est trompée, pas à peu près. Même quand elle a changé de table. Puis là, ça l'a un peu discipliné, puis s'est excusé pour qu'elle revienne à sa table. Donc, j'ai regardé, quelqu'un dit, mais se peut-tu qu'en vieillissant, on devienne mauvais? Non, on ne devient pas mauvais en vieillissant. C'est parce que quand on est jeune, on se guette, puis quand on est vieux, on se guette moins, ça fait que c'est le naturel qui sort. C'est comme ça que ça marche. J'avais peur, mais Seigneur, je ne voudrais pas qu'en vieillissant, je devienne, j'étais un violent dans le passé, je ne voudrais pas être dur avec tout le monde. Non, c'est comme si le Seigneur me dit, ce que tu es, tu l'es. Même quand tu vas diminuer, ça va l'être peut-être plus, tu sais, parce que c'était un homme de Dieu. Mais j'ai dit, Seigneur, tu connais le temps que j'ai, tout ce qui me reste à faire. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai fait une prière un jour. Tout ce qui reste à faire dans ma vie, tu le sais, là, ce qu'il y a à faire, là. Continue ta bonne œuvre de sanctification jusqu'au temps que tu arrives. Fais avec moi, Seigneur, tout ce que tu peux avec ce que je suis pour ce qui me reste de temps. C'est ça que j'ai dit au Seigneur. Ça marche. Je ne me sens pas encore correct, je m'échappe encore de temps en temps. Moins fort, vous le verriez peut-être pas, mais moi je le vois. Mais je dis au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu sais, fait que ça arrive toujours au bon moment, que moi, jusqu'à la fin de mes jours, je sois un témoignage pour toi. C'est ça que je te demande, Seigneur. Je vais affecter ma génération. J'ai rien qu'une vie à vivre, moi. Tu sais? Puis je veux la vivre pour le Seigneur. Je veux que ça porte. Puis, des fois, je voulais peut-être un peu trop. Mais je veux que ça porte, je veux que ça continue. Je rends grâce à Dieu. Je rêve, vous le dis en passant, parce que je le fais l'année prochaine. J'ai commencé, je vais vous dire ça un peu à peu près, vous m'en voudrez après si vous voulez, là, mais je ne sais pas grand-chose. Mais j'ai commencé quand j'étais jeune chrétien à évangéliser la Côte-Nord. J'avais fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que je ne m'en irais pas de la Côte-Nord. Je restais à Sept-Îles quand j'ai été sauvé, j'étais à Port-Cartier. J'ai dit, Seigneur, je prends un engagement devant toi, je m'en irai de la Côte-Nord quand j'aurai tout évangélisé les portes jusqu'au temps que la route finisse. Il faut le faire. Je l'ai fait. J'ai fait plus. Je rends grâce à Dieu. Mon ami, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus au Seigneur, mais il y en a quand même. T'sais? Puis, quelques années après, je suis retourné évangéliser. Je suis allé dans des foyers. Les gens disaient, venez, monsieur, je vous connais. Vous êtes le monsieur qui passait avec un autobus puis qui nous présentait des films. Puis il vivait avec quelqu'un. Puis il disait, asseyez-vous. Puis il attendait. J'ai dit, ça se peut-tu, je reste un emprunt. Il y a deux ans, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, il faudrait que je retourne. J'ai dit, quand tu sèmes, tu vas voir ce qui pousse. L'été prochain, j'y vais. Je vais dans ces endroits-là. Puis je vais aller, peut-être pas jusqu'au bout du chemin, mais pas mal, pour dire, mais j'ai semé. J'aimerais, Seigneur, qu'on moissonne, parce qu'il y a un temps pour semer, le Seigneur fait grandir, puis il y a un temps pour la moisson. Même si c'est pour une âme, que j'aurais tout fait ça, ça sera le prix qu'elle aura coûté. C'est ce que je me dis. En tout cas, en passant, on revient, on continue le dernier. On voit qu'il était beau aussi spirituellement. Dernier profil, là, que beau spirituellement. Boaz. C'est moi qui l'ai fermé. Bon, c'est pas grave, je vous le dis pareil. Sa piété n'était pas seulement théorique, mais elle se manifestait dans la vie de tous les jours, de chaque jour. C'était comme ça. Ah, c'est bon. Okay. Okay. Sa piété. Hein, on l'entend hein, quand on entendait hein, que l'Éternel soit avec vous. Et les gens répondaient que l'Éternel te bénisse. C'est un homme pieux. Il n'avait pas peur de parler du Seigneur en public. Ça, c'est sa piété, ça. Hein? Il avait une relation avec son contremaître. Comme j'ai dit tantôt, il savait s'entourer d'hommes. Un bon homme, un vrai homme, bien. Aussi, un vrai homme, là, sa piété se manifestait par l'obéissance aux lois de Dieu. Il avait le nom de l'Éternel à la bouche. Puis quand Ruth a demandé la grâce... Bien, on va le voir un peu, vous allez voir. Quand elle lui a demandé de faire quelque chose, il l'a fait. Parce que c'était dans la loi de Dieu. Il y avait deux lois. Concernant les étrangers, puis, on l'a vu tantôt, après ça, le Lévirat. Le Lévirat, je vous le dis un petit peu, mais pas trop long. Le Lévirat, c'est... Lévitique 19, ça, c'était les étrangers avant, je vous le répète le verset. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ensuite, Deutéronome 24, tu ne porteras point atteinte au droit de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Donc, eh bien, c'est comme ça que Boaz a agi, hein, vis-à-vis de Ruth, l'étrangère. La loi du Lévirat, je l'ai mis un peu, là, mais je vous lirai pas trop. Mais le parent qui avait le droit, le parent qui avait le droit d'épouser la veuve s'appelait le Goël. Puis, le rédempteur, ça vient du participe présent du verbe qui veut dire délivrer ou racheter. Donc, il y avait une loi en Israël que si une femme, bien son mari mourait, puis qu'elle n'avait pas donné de descendance, le plus proche parent devait donner une descendance au nom du frère à la femme. Si vous me saisissez, vous pourrez le lire dans le Lévitique, dans Deutéronome 25, 5 à 10. J'ai un petit peu, je vous donne l'occasion de lire vous-même. Donc, ça veut dire délivrer, racheter. Il y avait le droit du Goël. Puis pour que celui-ci, l'homme, exerce le droit de Goël, de délivreur ou de racheteur, là, si on veut aller comme ça, il y avait des conditions qui étaient à respecter. Fallait. Okay. Fallait qu'il soit un proche parent. Première condition. Deuxième condition, fallait qu'il soit riche, capable de payer, de racheter. Ça, c'était une autre condition. Troisième condition, il fallait qu'il soit capable de susciter une postérité. Ça, c'est une autre condition. Puis après ça aussi, il fallait aussi que, quand ça arrivait, ben, exercer la vengeance dans les cas de meurtre où il fallait qu'il protège ou fasse justice pour le proche parent. Donc, le comportement. Puis, savez-vous que Boaz, c'est un type d'homme qu'on rencontre tout au long de la Bible, de l'Ancien Testament, mais le type parfait de Boaz, de l'homme, le plus bel homme qu'il n'y a pas, bien, vous me voyez venir pour certains, bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'homme parfait. L'homme parfait, on peut dire souvent, moi je me disais, OK, je vais essayer de me piéger un modèle quelque part, le Seigneur Jésus, on ne pourra jamais l'éviter. L'imiter. Mais, tu sais, c'est comme... pas essayable d'imiter quelqu'un qui est Dieu et qui est parfait. On peut prendre ça comme ça. Mais on peut dire aussi, oui, mais ça, c'est la perfection. J'arrêterai pas tant que je ne serai pas rendu là. Ça peut être un modèle aussi à imiter, qu'on n'arrêtera jamais d'essayer d'imiter. Puis à mesure qu'on va essayer de l'imiter, bien, on va grandir avec, on va devenir comme ça. Puis, le modèle qu'on a du Seigneur Jésus, c'est n'importe quel homme peut l'imiter, parce que c'est l'homme parfait en tout. Donc, j'ai fait une comparaison. OK? Ça a reculé? OK, c'est pas grave. Donc, la dernière diapo. Ah, OK, Jésus-Christ! Hein? Donc, Boaz, c'est un modèle du Seigneur Jésus. Boaz, il vient de Bethléem. Le Seigneur Jésus est venu de Bethléem, il est né. OK? Boaz est un homme puissant. Matthieu, bien, dans Matthieu 28, c'est les disciples de le Seigneur Jésus, les disciples en tout cas, c'est qui dit un homme puissant. Il mentionne comme étant un homme puissant. C'est un homme riche. Hein, dans 2 Corinthiens 8, 9, de riche qu'il était, il a abandonné sa richesse pour devenir pauvre pour nous autres. C'était aussi le Seigneur Jésus, il était appelé le maître de la moisson. Puis dans Matthieu, 9, c'est le maître de la moisson. Il se mentionne comme ça. Celui qui console dans Boaz 2, 13. Dans 2 Corinthiens 5, bien, Seigneur Jésus qui console dans toutes nos afflictions. Ensuite, celui qui étanche la soif dans Ruth 2, 9. Dans Jean 7, 37, si vous avez soif. Venez à moi. C'est ce que le Seigneur dit. Ensuite, celui qui apaise la faim, dans Ruth, dans Jean 6, 35. Venez à moi. Encore. Celui qui donne avec abondance, dans Jean 10, 10, l'abondance du Seigneur Jésus est mentionnée. Après, bien, celui qui donne, celui qui accorde le repos, le Seigneur Jésus, bien dans Matthieu 11, 28, venez à moi, je vous trouverai du repos pour vos âmes. C'est ce qu'il dit. Ensuite, bien, celui qui sait tout sur Ruth, puis l'Apocalypse, bien, 2-2, Seigneur sait tout sur nous, chacun. C'est l'époux, c'est lui qui est doux et humble de cœur. Le Seigneur Jésus dit qu'il était doux et humble de cœur. C'est comme ça. C'est un proche parent. Le Seigneur Jésus, bien, s'est identifié à notre nature terrestre. Il est devenu un humain à 100%, parent des humains. On est tous du même sang. On est tous d'Adam et Ève. Proche parent, le rédempteur. C'est le rédempteur dans Marc. Celui qui a droit de rachat, dans 1 Pierre 1, 18 et 19, ça nous parle de... Puis après ça, bien, c'est l'époux. Puis dans Éphésiens, bien, ça nous parle d'époux. Donc, on a un modèle parfait. On a le Seigneur Jésus. On peut se l'approprier. On peut se l'approprier. Je voulais vous dire quelque chose au sujet de... Je l'ai oublié, là, en tout cas. Mais si on conclut, Boaz, c'était un gars qui était beau personnellement, socialement, spirituellement. Avec ce qu'on a entendu ce matin, en tout cas ce que je vous ai donné, est-ce qu'il y a encore du chemin à faire pour que tu sois beau dans ces trois domaines-là? On va prier. Oui, Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour le fait, Seigneur, que toi, tu es notre rédempteur. Seigneur, on pourrait résumer toute la Bible avec un mot. Rédemption, Seigneur Dieu. Du commencement de la Bible, aller jusqu'à la fin, Seigneur, c'est ton œuvre de rédemption pour nous racheter de nos péchés, Seigneur Dieu. Seigneur, tu es venu dans un monde impropre, Seigneur, sauver des personnes comme moi, impropre, Seigneur Dieu, indigne. Seigneur, merci, Seigneur, pour des modèles que tu nous as laissés un peu partout dans ta parole de Dieu, à nous à les rechercher, à s'en prendre un puis à l'imiter. Mais, Seigneur, le plus grand modèle qu'il n'y a pas, c'est toi. Seigneur, tu es le modèle parfait. Seigneur, on a lu tantôt, on a vu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. S'il y en a qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus, sont même pas encore sur la route de devenir un homme vrai. Engage-toi, si tu t'es jamais engagé pour le Seigneur Jésus. Il t'a laissé toute sa parole pour que tu deviennes un homme comme il se doit. Un homme beau socialement, un homme beau spirituellement, un homme beau Oui, Seigneur, pardonne-nous nos manques, puis je te prie de nous bénir, Seigneur, en tant qu'homme, à commencer par nos foyers. Amen.